Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
La blague du jour, ça va être sous forme de devinette. Comment appelle-t-on un homme qui a deux femmes ? De la bigamie. Comment appelle-t-on un homme qui a plusieurs femmes au-delà de deux ?
Polygame.
De la polygamie. Et comment appelle-t-on un homme qui n'a qu'une femme ? De la monotonie.
Intro. Lire, écrire, parole, alphabet, béaba, abécédaire, apprendre, réapprendre, autonomie, comprendre, nécessité, administration, transmission, littérature, tradition écrite, tradition orale, exclusion, école, confiance en soi, communication, soupe de pâte, échec scolaire, formation, débouché, papier, stylo, culture, enrichissement, facilité, histoire, langue de Molière, nouvelle technologie. Vous l'aurez compris, notre thème du jour est l'alphabétisation. D'après l'UNESCO, l'alphabétisation est un droit humain fondamental et la base de l'apprentissage tout au long de la vie. Facteur déterminant du développement social et humain, elle permet de transformer les vies. Pour les individus, mais aussi pour les familles et les sociétés, c'est un instrument d'autonomisation qui améliore la santé, les revenus et les relations que l'on tisse avec le monde extérieur. Pour nous instruire sur ce thème, nous accueillons aujourd'hui Madame Henny, coordinatrice enfance-famille, et Madame Tuillier, animatrice sociale de l'association Jeanne d'Arc.
Écoutez bien.
Au sommaire aujourd'hui, nous avons des lectures des textes alphabétisés de l'atelier du coin des mots. Un micro-trottoir grammaticalement correct, une recette de cuisine sans faute d'accord, un épisode textuel du Narvalo, une minute du pôle de conditionnel au conditionnel, une chronique pleine d'épithètes à partager, des musiques pleines de mots très intéressantes, une interview de A à Z sur l'alphabétisation. Pour vous servir aujourd'hui, Joao, Stéphane, Didier, Rémi, François, Yacouba, Sandrine, Vivien, Timothée et Florence.
L'alphabétisation, c'est comme les Indiens et leur nom de tribu. Les Aztèques de A à Z commencent, les Mayas oublient le Z et finissent par le A. Pourquoi dans la foulée ont-ils perdu le Z et placé le Y ? Mystère. Mais c'est quoi cette histoire ? On a un petit bonhomme, comme dirait quelqu'un que je connais après. Je continue. Avec les apothèques, eux commencent par la fin Z et poursuivent avec le A, Zarbi. Pour les Yanomami, c'est comme les Mayas, sauf que les Yanomami commencent par le Y, suivi du A, dans la foulée. Soit suivi dans la foulée du nom Ami. 100 mètres de Z, une histoire sans fin. Décidément, c'est toute une histoire, le nom des tribus indiennes, d'alphabet. Donc, l'alphabet est une énigme à travers les civilisations. Je passe et finis en disant que j'espère m'être fait des amis au moins une fois. Cela est une autre histoire. Je l'appellerai Psy, mon ami. Je redis là encore une fois que je remercie, même si ce n'a pas vraiment d'intérêt, deux enfants, Anna et Evan. Ils m'ont bien ouvert et fermé les yeux. Je clignote comme un feu orange de circulation maintenant. Quant à leur maman, que Dieu la préserve et fasse qu'elle soit heureuse, ainsi qu'Anna et Evan, que le bonheur touche leur cœur, leur âme et leur esprit à tous trois. Souhaitons, message personnel, qu'Evan aille loin sans oublier sa sœur et sa maman, et réciproquement. Et enfin, parce que j'ai le monopole de l'antenne, je dirais et ajoute le béaba de la psy, c'est la Madeleine de Proust, le vécu et le ressenti. D'ailleurs, notre petite cuisine a bien rendu honneur à Marcel, que lui aussi nous entende. Nom de nom qu'il nous réponde où qu'il soit. Je lance encore un clin d'œil à quelqu'un, ferru en lettres. Ce quelqu'un, Jean de la Lune, comme aimait à l'appeler une de ses connaissances, nous a appris à son entourage. Il disait, notre Jean de la Lune, que les erreurs dans l'écriture portent un nom. Je ne sais pas quel est le nom exact, mais c'est un lapsus lorsque nous écrivons qui est révélé. Dommage qu'il ne soit plus là. On en aura appris encore et encore. Que nous aurait-il appris sur l'alphabet ? Si vous avez connu ce Jean de la Lune, vous devez de connaître mon amie Psy. Elle occupait une place dans le cœur de son ami Jean de la Lune. Voilà, j'ai terminé. Entre nous, jusqu'à la prochaine.
Il y a de l'espoir où se trouve le désespoir. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Il y a l'alphabétisation pour éviter d'être analphabète. Il y a de l'amour là où il n'y a pas. Il y a des gens pour vous épauler là où certaines personnes vous méprisent. Il n'y a que la vie et rien que la vie.
Écoutez ABC des Jackson 5. Et nous recevons aujourd'hui Madame Thuillet, animatrice sociale à l'association Jeanne d'Arc.
Bonjour.
Bonjour. Alors, première question, de quelle époque date l'apparition du concept d'alphabétisation ?
Alors, l'alphabétisation, on y a pensé il y a une dizaine d'années, parce que le public rencontré, c'était souvent des familles étrangères qui venaient pour... Parce que l'association Jeanne d'Arc propose aussi l'aide aux devoirs. Et on s'est rendu compte que les familles étrangères, les parents étrangers avaient du mal pour aider les enfants dans leurs devoirs.
Vous avez déjà répondu à une partie de la question.
Pardon.
La question, c'était quel public recevez-vous, hormis les familles étrangères ?
Essentiellement des primo-arrivants, des familles étrangères, essentiellement. Peut-être sur une trentaine de personnes, peut-être deux d'origine française.
D'accord.
Alors, quels sont les objectifs de vos cours d'alphabétisation? Est-ce qu'il y a une durée précise?
L'inscription se fait au mois de septembre, hein, comme une année scolaire.
Entrée scolaire.
Répétez-moi votre question.
Oui. Alors, je vous demandais déjà les objectifs des
faciliter,
cours.
Surtout faciliter la vie quotidienne. Voilà. On travaille sur le vocabulaire des courses pour faciliter effectivement la vie quotidienne. On parle de la santé, du médecin, pour prendre rendez-vous chez le médecin, pour prendre le bus. C'est vraiment l'objectif principal, c'est faciliter la vie quotidienne.
Et est-ce qu'il y a une durée fixe ou
Non. En général, les apprenants viennent pour l'année, puis on les voit les années suivantes.
Alors, vous parliez des apprenants. Quel est le niveau de départ de ces personnes?
Il y a tout un panel. Donc, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, on appelle ça alpha, pour vraiment les primo-arrivants qui viennent d'arriver sur le territoire. On est vraiment sur l'écriture, l'alphabet, écrire l'adresse, se présenter. Et il y a le deuxième groupe, c'est le groupe FLE, français langue étrangère. Ce sont des personnes un peu plus avancées qui sont en France depuis quelques mois ou quelques années déjà.
Et est-ce que dans vos formations, vous incluez le comptage?
Le comptage?
Lire, écrire et compter.
Ah oui, oui. Mais moins. Leur demande, c'est surtout lire, écrire et pour aider leurs enfants dans les devoirs, en fait. Mm-hmm. Le comptage, ils y arrivent. Voilà. Mais forcément, il y a des petits exercices proposés. Il y a des mathématiques.
D'accord.
Et comment se passe le financement des cours?
Alors, l'adhésion à l'association, c'est 14 euros l'année. Mmh. Donc, c'est 14 euros pour l'année. Alors, soit les apprenants peuvent le financer, sinon, ce sont les entreprises qui financent pour les élèves.
Comment se passe une session d'alphabétisation?
Cette année, on a même fait trois groupes. Puisqu'il y a des alphas, des FLE 1 et des FLE 2. Et donc, tout dépend de la classe. Et donc, les exercices proposés diffèrent, évidemment. Ça répond à votre question ou pas du tout?
Oui, très bien.
Alors, quelle est la formation des professeurs, de ceux qui donnent ces cours d'alphabétisation?
Alors, les bénévoles...
Ce sont des bénévoles?
Alors, il y a deux salariés...
Oui.
Moi-même et ma collègue, on a toutes les deux le BPJEPS Animation Sociale. Pour ma part, j'ai aussi fait des stages à éducation et formation au centre de formation de Netreville. Et les bénévoles, ce sont généralement des anciens professeurs. On a une ancienne infirmière. Voilà.
D'accord. Faites-vous partie d'un réseau d'alphabétisation?
Non.
Non. Ça a le mérite d'être clair.
Et donc, je vais revenir un peu sur les cours. Quels sont les outils que vous utilisez? Comment se passe, concrètement un cours?
Alors, encore une fois, tout dépend du niveau. Je fais des petites photocopies, voilà, on travaille sur une feuille. Après, on propose des sorties, par exemple à la mairie, parce qu'on travaille autour de thèmes. On travaille cette année autour de la citoyenneté. Donc il y a des sorties proposées et un visionnage. Enfin, on peut aussi visionner des petits films. Et là, par exemple, l'année dernière, on a visionné « Je veux apprendre la France », un documentaire sur des primo-arrivants à Paris. Donc, ils se sont bien reconnus là-dedans et c'était très, très émouvant.
Alors, j'ai une question aussi. Vous parlez de primo-arrivants. En même temps, les questions de formation, de FLE, tout ça, il y a souvent des conditions d'accès au niveau administratif et au niveau du séjour. Vous, comme vous êtes une association, est-ce que ces conditions s'appliquent aussi ou vous accueillez n'importe quel primo-arrivant ?
On accueille n'importe quel primo-arrivant, mais nous ne sommes pas un centre de formation. Donc forcément, ils viennent aussi avant de s'inscrire au centre de formation, par exemple à Éducation et Formation à Netreville. Et voilà, donc on est là pour essayer de garder leur niveau de français, en fait, et ou évidemment évoluer. Mais après, effectivement, quand il y a de la place à Éducation et Formation, ils rentrent en formation pour passer le DILF, le DELF ou le DALF. Alors c'est un alors le DELF, le diplôme d'études de langue française, c'est le premier diplôme obligatoire pour avoir des papiers français à l'OFI, en fait. Voilà.
Donc et le DELF et le DALF.
Le DELF, c'est le premier diplôme d'études de langue française, il y a le diplôme initial de langue française et le diplôme approfondi de langue française.
Encore une petite question, du coup, c'est qu'on s'inscrit chez vous en septembre. S'il y a des personnes qui arrivent en cours d'année, est-ce que vous avez possibilité de les inclure aussi ?
Oui, si l'effectif n'est pas trop grand, oui, on est assez flexible.
Et l'effectif maximum ?
Alors là, il y a 2 salariés, 3 bénévoles, 3 groupes. C'est 13 environ par groupe.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que vous favorisez les échanges culturels pendant la formation, c'est-à-dire repas communs, sorties, etc. ?
Oui, alors il y a un repas autour du monde à chaque fin d'année. Donc voilà, tout le monde arrive avec un plat de son pays. Et les sorties, en moyenne, c'est une sortie par trimestre. Donc là, voilà, cette année, ce sera autour de la citoyenneté.
Alors, on va maintenant écouter un extrait d'un micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues d'Évreux, où on a demandé quelles sont les causes et les conséquences de l'illettrisme.
D'accord. Quelles peuvent être les causes de l'analphabétisme pour vous ?
Les causes sont simples. Les gens qui ne peuvent pas lire, parce qu'on ne peut pas se cultiver comme il faudrait. Ouais.
Et pourquoi les gens n'arrivent pas à se cultiver comme il faudrait ?
Si on est analphabétisé, c'est qu'on n'est pas instruit. Voilà.
C'est-à-dire, ses parents ne l'ont pas mis à l'école, c'est pas. Voilà, ses parents ne l'ont pas poussé pour apprendre à l'école, c'est ça. Mon avis à moi, c'est ça. Hein.
Et quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir quand on ne sait pas lire et écrire ?
Oh, il y a beaucoup de conséquences, c'est très grave.
Ouais, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, on ne va pas avoir un travail, et ainsi de suite.
Savoir lire.
Ouais. Oui. C'est quoi quand on ne sait pas lire et écrire, les conséquences ?
On ne peut pas travailler. C'est difficile. Quoi.
Comme ça, j'imagine que c'est tout simplement un manque d'éducation, d'école et d'apprentissage. J'imagine, à partir du plus jeune âge.
Bon. Et les conséquences de ne pas savoir lire et écrire ?
Après, l'intégration des gens, etc., surtout dans notre société, c'est certain que c'est très, très, très compliqué.
Pas l'éducation, mais l'école.
L'école, oui.
Le manque d'école. Hein.
Oui.
Le manque de culture.
Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout.
Et quelles sont les conséquences ?
De ne pas savoir lire et écrire.
C'est très grave quand même, parce qu'on ne peut pas s'exprimer, rien. On ne peut pas écrire. Si on peut pas vraiment écrire, et puis c'est vraiment grave. Pour trouver du travail.
Le manque d'éducation, enfin l'école.
Oui, ne pas avoir été à l'école.
Ouais. Sinon après,
on peut savoir lire, je crois.
Oui, c'est ça.
Tout simplement, le manque de moyens. Après, tout dépend où ça se passe. En France, on parle ?
En France, oui.
Un manque de suivi, je pense. Moi, je pense que tout bêtement, c'est un manque de suivi. Déjà de la part des parents, est-ce qu'ils se font le relais à la maison, déjà, est-ce qu'ils suivent un petit peu ce qui se passe à l'école ? Après, déjà, il faut commencer par les choses simples, hein, commencer par le début. Hein. Ouais. Parce qu'après, c'est un tout. Après, tant qu'on ne connaît pas la vie des gens, c'est pas évident aussi, on ne sait pas par où ils sont passés. Donc, il faut avoir assez de recul par rapport à ça. On ne peut pas donner une réponse objective vu qu'on ne connaît pas directement le cas concret. C'est plus du cas par cas, entre guillemets, parce que beaucoup, il y a des gens qui n'ont pas eu une enfance forcément facile, ou les papas qui divorcent, enfin les parents qui divorcent, et automatiquement, ça y joue, ça travaille dans leur petite tête. Donc, c'est pas évident aussi, c'est pas une question anodine, mais je pense que c'est un suivi déjà dès le départ des parents, déjà pour voir s'ils sont pas un petit peu à l'écart à l'école, si à l'écoute, parce que des fois les parents ils sont, comment on pourrait dire, ils sont convoqués à l'école. Il y a une convocation, mais est-ce qu'il y a un suivi derrière? Après, qui le sait ça?
Bah, l'écho, c'est la communication avec les autres, d'être enfermé.
Enfermé?
Enfermé, enfin, être la solitude, quoi, ah, être d'accord. Seul.
Oui.
À cause de l'alphabétisme, ça cause beaucoup de dégâts, hein, personnels.
La démission du gouvernement et des associations, les conséquences, eh ben, les conséquences de l'analphabétisme, eh ben, je pense que l'alphabétisation rend plus savant et peut-être plus intelligent aussi, et permet de mieux comprendre et de mieux décrypter ce qu'on nous raconte.
Bon, je vais vous demander des réactions sur ce qu'on vient d'entendre.
Alors, tout ce qui a été dit, effectivement, c'est vrai, enfin, si je peux me permettre de dire ça. Après, la chose que j'ai pas entendue et moi qui me saute aux yeux tous les jours, la conséquence de l'illettrisme et l'analphabétisation, c'est le manque de confiance en soi et la honte que peuvent rencontrer les primo-arrivants en arrivant sur le territoire français. Voilà, donc nous sommes toujours là. Alors, effectivement, on donne des cours d'alphabétisation, mais on est surtout là aussi pour les valoriser. Tout le monde sait quelque chose qui mérite d'être enseigné. Donc, eux aussi nous apportent beaucoup. Et donc, voilà, ça, on le met toujours en avant.
Vous parliez du manque de confiance en soi. Quels peuvent être les freins à l'alphabétisation?
Les freins à l'alphabétisation? Elle est difficile, cette question. Hein. les freins à l'alphabétisation? Bah, le manque d'envie.
Oui.
Et voilà. Est-ce que les conditions de vie, les conditions matérielles, parce qu'il y a beaucoup de primo arrivants qui sont à la rue, par exemple,
c'est vrai.
Ça compte.
Ça compte, oui, ça compte beaucoup. Effectivement, à côté des ateliers alphabétisation, on est là pour les diriger, les accompagner dans leur projet de vie et de voilà, j'ai des apprenants qui habitent dans des foyers et effectivement ils nous en parlent et on est là aussi pour les accompagner pour avoir un toit bien à eux, voilà, c'est pas clair du tout, hein. Je suis désolée.
Si, c'est assez clair.
Et justement, on parlait des primo-arrivants, comment ils prennent contact avec vous? Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils ils vous sont adressés?
Ils viennent d'eux-mêmes, de bouche à oreille, en fait. Mmh. Voilà, en règle générale. Après, il y a eu le forum des associations. Là aussi, on a eu des nouveaux arrivants grâce au forum des associations. On met des petits flyers dans les associations et dans les structures du quartier de Navarre.
Je vais vous poser une question. Je suppose que j'ai déjà la réponse. Je voulais savoir si pour vous, l'alphabétisation devrait être une obligation.
Est-ce qu'elle l'est peut-être, puisque vous parliez du
Elle est quelque part, oui, elle est obligatoire, puisque pour pouvoir avoir des papiers français et un titre de séjour, il y a des heures obligatoires. Donc là, dans un centre de formation tel que éducation et formation, pour passer un examen. Donc quelque part, c'est obligatoire.
Oui.
Et après, pour moi, c'est obligatoire pour pouvoir vivre simplement, finalement.
Oui, on pense...
Plus simplement.
Toutes les démarches administratives, par exemple.
Oui, oui, c'est compliqué. Voilà, en général, le dernier quart d'heure des heures d'alphabétisation... Enfin, le dernier quart d'heure de l'heure d'alphabétisation, les apprenants viennent me voir avec leurs papiers et puis je leur explique ce qu'il faut faire. Enfin, s'ils ont des questions, voilà, je suis là pour répondre à leurs questions.
Et l'UNESCO reconnaît un droit à l'alphabétisation et comment on peut faire valoir ce droit ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, comme une forme de droit opposable ou quelque chose comme ça ? Oui.
Répétez-moi la question du coup, ça y est, je suis perdue.
Oui, en fait, c'était savoir comment quelqu'un peut faire valoir son droit à l'alphabétisation.
Il y a peut-être pas forcément de réponse à cette question.
Non.
Peut-être qu'on peut simplement pas le faire à l'heure actuelle, faute de place, certainement.
Peut-être, oui, non, c'est vrai. Non,
Non, bah non.
Non.
On a le droit au joker quand on est invité à Principe Actif.
Joker.
Voilà, mais vous n'avez pas le droit à 50 jokers. Hein. Normalement, c'est un par interview.
Alors moi, je vais poser la dernière question, donc je veux une réponse. Connaissez-vous des applications destinées à l'alphabétisation ?
Ah. Alors,
bonne question.
Je vais répondre, mon joker a déjà pris. Des applications, alors oui, seulement, j'aime pas. Je travaille pas. Non, mais c'est vrai. Je travaille pas avec et je n'y arrive pas. Et voilà.
Mais si un apprenant vous pose la question.
Alors.
Pour, je sais pas, moi, travailler chez lui ou. Est-ce que vous pouvez lui donner des
applications ? Oui, ah ben bien sûr. Alors,
chaque personne choisit.
Dans nos salles d'alphabétisation, il y a plusieurs salles. Bon, dans la salle principale d'alphabétisation, il y a trois ordinateurs. On va mettre en place des ateliers informatiques en alphabétisation. Il y a des applications gratuites. Et effectivement, je leur donne le lien, je leur montre comment ça marche. Mmh. Voilà. Après, je n'aime pas dans le... Enfin, j'ai dit que je n'aimais pas ça parce que pour faire du collectif sur les applications à l'ordinateur, c'est compliqué. Donc, après, de l'individuel ou par groupe de deux, effectivement, c'est beaucoup plus facile et c'est très bien. Voilà, là comme c'est plutôt dans le collectif, c'est pour ça que c'est compliqué de travailler avec cet outil, pour moi en tout cas.
D'accord. Bah, écoutez, nous vous remercions d'avoir répondu à nos nombreuses questions.
Merci à vous.
Excusez-nous de vous avoir mis en difficulté de temps en temps.
Je rappelle qu'on recevait Madame Tuillier, qui est animatrice sociale à l'association de la Jeune d'Arc.
Merci.
Juste une dernière chose avant qu'on reparte en musique. S'il y a des auditrices et des auditeurs qui ont entendu cet échange, qui souhaitent rentrer en contact avec la Jeune d'Arc pour éventuellement des cours d'alphabétisation, comment ça se passe ? À quelle adresse ou à quel numéro ils peuvent vous contacter ?
L'association Jeune d'Arc se situe dans le quartier de Navarre, au 45 rue Saint-Germain. Le numéro de téléphone, donc, c'est le 02 32 33 05 14. Et vous me demandez, donc vous demandez les slips pour vous inscrire aux ateliers Alpha.
Super, merci à vous et à l'association Jeanne d'Arc. Pardon, on repart en musique. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home.
my baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Nous venons d'écouter les Box Tops. J'ai oublié le titre.
The Letters.
The Letters.
Et maintenant, nous allons retrouver la petite cuisine d'Ozone.
Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire donc des madeleines faciles. C'est un délice. Alors, pour faire donc ces madeleines, donc, il faut savoir que donc, ça demandera 30 minutes de préparation. Ensuite, en temps de cuisson, 15 minutes. Alors, du point de vue ingrédients, il nous faut deux œufs.
Deux œufs.
Il nous faut deux œufs. Il nous faut 5 cuillères à soupe de sucre. Après le sucre, il nous faut 100 g de farine. Ensuite, il nous faut 8 g de levure chimique, 50 g de beurre fondu et 30 g de lait. On commence par faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Ensuite, il nous faut donc mélanger les œufs avec le sucre. Mélanger les œufs avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Si vous désirez, pour parfumer un peu, vous pouvez rajouter de la fleur d'oranger avec un peu plus de lait. Donc, on mélange les œufs et le sucre.
Allez-y. Alors, mettez-en pas tout, comme ça, on fait pas de grumeaux. Voilà.
Avec la farine, donc il faut ajouter donc la levure chimique. Ça prend forme.
Oui, oui.
Ça se blanchit.
J'aime bien dans la petite cuisine, c'est que vraiment, qu'est-ce qu'on est...
Ça se blanchit. Hein.
Ah bon. Ouais. Et puis alors, c'est vraiment de la cuisine... Comment dire ?
Fait maison.
Hein.
Et avec amour.
Ah oui. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est quand même en train d'intégrer la farine dans une assiette creuse. C'est une assiette creuse et c'est quand même une fourchette en plastique.
Avec une fourchette en plastique, oui.
C'est les professionnels qui sont.
Ah, c'est en fait. C'est
la peau des professionnels.
C'est ça. C'est les MacGyver de la cuisine. Quoi.
La cuisine. Il fallait qu'on pouvait tourner dans un sens et aussi dans l'autre.
Et de lait faut...
Alors attention, nous allons faire une manœuvre d'équilibriste avec Rémi. Attention.
Mouvement de tambour.
Ta-da-da. Il faut rajouter le lait et après il faut laisser reposer 15 minutes. Là, donc, on va rajouter la farine donc avec la levure chimique, puis le beurre et le restant de lait comme on a fait. Il faut laisser reposer 15 minutes. Alors on beurre le moule, donc le moule à madeleine, et on verse donc la préparation dedans jusqu'en haut, les madeleines vont gonfler. Alors précision donc pour la cuisson, il faut enfourner donc à 240 degrés, thermostat 8, et laisser au four et baisser au fond de 5 minutes à 200 degrés. Thermostat 6 à 7.
Le singe et la tortue, un conte africain par Jean Roger. À l'occasion du 20e anniversaire de son mariage, Ngoya, la tortue, organisa un grand dîner. Elle y invita son oncle, bien-aimé Mpaka, le singe. À cette occasion, M. Ngoya tua le plus gras de ses bœufs et Mme Ngoya le prépara avec le plus grand soin. À l'heure fixée, M. Mpaka entra dans le salon vêtu d'un pantalon gris et d'une redingote dernier cri. La famille Ngoya, en costume de fête, accueillit son hôte avec joie. Les serviteurs de la maison allaient et venaient, apportant des plats délicieux de la haute cuisine Ngoya et des calebasses de vin de palme fraîchement tirées. Vint l'heure de se mettre à table. Ngoya, la tortue, se leva et d'un air digne dit à son oncle « Cher oncle, nous avons abandonné les vilaines habitudes de nos aïeux. Nous ne mangeons plus avec les mains sales. La civilisation, voyez-vous, nous a apporté des règles d'hygiène. » Chacun de nous doit les suivre et les faire appliquer. Allez donc, cher oncle, vous lavez les mains à la rivière. Le singe y partit et revint à quatre pattes, sans songer qu'il les salissait à nouveau. Mon oncle, dit Ngoya la tortue, que faites-vous ? Vous allez vous laver les mains et vous les salissez de nouveau. Le singe retourna à la rivière et revint dressé sur ses deux pattes. Il s'assit et voulut se mettre à manger. Doucement, dit son neveu. « Montrez d'abord vos mains. » Le singe obéit. « Mon oncle, » dit Ngoya. « Elles sont encore bien sales, vos mains. Allez donc les gratter avec un couteau. » Le singe jeta un coup d'œil d'envie sur les plats et sortit. Et pendant que la famille Ngoya mangeait et buvait, Mpaka se grattait les mains si fort qu'elles saignaient. Quand il rentra, les plats étaient vides et Ngoya était saoul. Le singe rentra chez lui tout honteux.
Not that I want you, not to say, but if you only Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois, 200 fois, 300 fois, quincampoix, dans la vie du Narvalo que nous retrouvons en Côte d'Ivoire d'Evreux avec son long, long, long cheveu bleu sur la tête. Son mariage avec le troupeau d'Amazones naines est chauve et soit cacobranlant, soit compromis par l'apparition inattendue de son épouse légitime, Arlette Tombal. Yodane, Doudur et Moulmou assistent à cette scène effrayante perchée sur le phare du lac Gitoun.
Anne-Mou, ma sœur Anne-Mou, ne vois-tu rien venir, Mou ?
À qui tu parles, d'où ? Connard le bamba Moudur.
Taisez-vous, j'écoute ce qui se passe grâce à mes oreilles de dinde audibles de longue portée.
Le temps que Yodane capte la bonne fréquence, nous retrouvons le Narvalo, sa femme oubliée Arlette Tombal et ses prétendants, le troupeau d'Amazones naines et chauves.
C'est délicieux, mon petit mari. Il va falloir choisir, c'est les naines ou moi.
Choisir, c'est renoncer. J'y renonce, mi fou ni raisin.
Justement, pas besoin de choisir, car je suis la perfection désincarnée jusqu'au bout des ongles. N'es-tu plus charmé par mes atouts charnels charmants et corporels et corporettes? Tu préfères les sosies chauves, maman Mitati.
Wesh, mère, t'es grub comme un clou. Sans ton maquillage, on dirait les contes de la crypte, t'as vu.
Calmos, calmos, vamos a la playa, señor Zorro. On va régler ça de façon civilisée, comme dans le hip-hop, dans les règles du game. Sors tes Air Max, tes baggies et monte sur le ring. Ici, c'est le Smurf. Hommage à Sydney, 2-3. 2-7, represent, featuring Sydney Yo.
Les impétrantes Big Girls sont dans la place. Elles se sont bien chauffées, les étiquettes. Chacune prend place dans un coin du ring, ficelle montée pour l'occasion. C'est parti pour un clash des titanes avec pour trophée l'inénarrable, l'inébranlable, l'inamovible, l'inextinguible, l'inexpandable, Caco branlant et so delicious, Narvalo.
Je capte quelque chose.
Dis-nous, Mou, qu'entends-tu, Mou ?
Que captes-tu, d'où ? À couche dure.
Je répète, les Français parlent aux Français. Les Hébroïciennes parlent aux Hébroïciennes qui ne se réveillent pas comme d'habitude. Les chiens se taisent car Jésus-Christ et la caravane passent. Karl Marx écrit en lettres capitales « Einstein relativise ». Kubrick d'Orange Mécanique, c'était bien aussi. L'abbé Pierre jette la première, reçoit les autres et devient Stone et Chardin. Sigmund Freud et Annalisa. Analphabète, c'est con comme l'œdème de Dick Rivers.
Nous avons besoin d'une traduction doux. Ton rap est à chier dur.
Moi, j'aime le slam mou, comme un grand corps mou.
Il semblerait que Yodane, avec ses oreilles audibles, acouphonique SFR de longue portée, bistable comme un interrupteur qui va et qui vient entre tes mains et que rien ne retient, capte à la fois Radio Cohérence, Radio Londres et Kalash FM. Maintenant, place à la battle animée par Sidney Bob Renard.
Oh, check my flow. 1-2, 1-2, voilà de la boulette. Sortez la smoule. Dans mon coin tribord, la plus livide des lyriques, l'immonde, Arlette, t'es bonne tombale. Et dans mon coin d'abord, la plus pelée rappée rappeuse, Fantomate, Goudave, Tertoun, Batave.
Viser la lune, ça me fait pas peur, ta prune est une de grande laideur. Les brunes comptent pas pour des prunes, les naines montent pour aller dans les plumes.
Il était une petite reine, pirouette, cacouette, qui avait une tronche de cake, pirouette, cacouette. Un jour, mon prince viendra, un jour, il t'éclatera.
Oula, oula, c'est chaud, ça attaque fort. J'ai pas entendu un flot pareil depuis Benny Bay à Fukushima, hashtag toilette japonaise. Place à la musique, Fantomate, nous t'écoutons.
Thank you.
just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me.
À l'exception des survivants, tous les auditeurs de cette voix insupportable sont immédiatement décédés. Les survivants sont traumatisés, victimes d'hémorragies auriculaires, de vomissements et d'énurésie explosive.
C'était quoi doux, cette merde dure?
Probablement mou, un attentat mou, ultrasonique mou, genre The Voice mou.
Eh, les extragas, vous vous y connaissez en chirurgie auriculaire? Mes oreilles audibles, acouphoniques et SFR de longue portée ont grillé. Je me contenterai des oreilles free de moyenne portée. Tout ce que j'ai entendu, c'est un son strident, puis bah plus rien.
Le son de la voix suraiguë d'Arlette a plongé le narvalo en état de bonin au bois dormant, autrement appelé coma. Fantomette s'en sort grâce au cérumen bouchant ses oreilles. Les cotons-tiges étant trop risqués pour les nains. Bob Renard a disparu.
Qu'est-ce que t'as fait, Morticia? Tu nous as fait notre précieux?
Oh, t'inquiète, il est juste endormi pour un moment indéterminé, mais non négligeable de suite d'un traumatisme acoustique. J'ai l'habitude de cette situation et je m'en sors toujours. Je ne me sépare jamais du rouge à lèvres magique qui me permet de les réveiller avec presque pas de séquelles. Il est juste là dans mon sac. Ciel, mon sac. Where is mon sac?
Comme par hasard, le sac a disparu, tout comme Bob Renard et le contenu de la tontine de la Côte d'Ivoire d'Evreux. Les deux rivales vont à présent devoir s'associer pour pouvoir réveiller le malgré tout inébranlable, inamovible, inaltérable, inextinguible, inexpandable, inépuisable, inexpugnable, insondable, inarrêtable et cacobrolant, Mimi Mini Narvalo. Mais la disparition de Bob Renard, du sac à main de Yodinde et de la tontine peut-elle s'expliquer par une intrication quantique? Bob Renard avait-il prémédité le vol du rouge à lèvres magique? Est-il téléguidé par L'Oréal? Vers où orienter la recherche de Bob Renard? Et surtout, faut-il vraiment réveiller le narvalo? Et quand? Par ailleurs, aimez-vous les croque-monsieur ou préférez-vous un œuf à cheval? Pour répondre éventuellement à toute ou partie de ces questions supposées rituelles, rendez-vous le mois prochain, le 27 octobre, à la même heure, pour un épisode du Beau Narvalo au bois dormant.
Les aventures du narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Et quels sont les avantages de savoir lire et écrire?
Bah, de s'ouvrir à beaucoup de choses. Le livre, tout simplement, la lecture, donc tout ce qui est culturel. Exposition, enfin tout ce qui nous entoure aujourd'hui.
Je viens de vous le dire, on se cultive, hein, on découvre plein de choses, hein, de par les livres, maintenant que c'est plus facile avec l'informatique.
Oui.
Les gens n'ont plus, ceux qui sont inalphabètes peuvent peut-être à travers l'outil informatique s'instruire. Voilà.
Savoir lire et écrire, c'est-à-dire on a la possibilité d'avoir un travail, d'avoir tout ce qu'on veut.
S'exprimer comment?
À parler d'un écrit ou...
Mmh. Bah pour échanger déjà, entre les gens, pour être inséré dans la société, pour trouver du travail, toutes ces choses-là.
Ah bah, on peut s'exprimer. On peut s'exprimer, on peut dire qu'est-ce que ça sert pas à écrire ou verbalement.
On peut mieux comprendre, on est cultivé après, on peut comprendre tous les sujets qui sont à l'actualité. On peut avoir un meilleur travail.
Oui.
Le béaba déjà. Déjà qu'on signe un contrat. qu'on va faire ses courses. Qu'on nous rend la monnaie. Savoir si on ne se fait pas avoir tous les jours dans la vie du quotidien. Et ne serait-ce, je sais pas, quelqu'un qui a besoin d'un renseignement, on peut toujours aider son prochain. Les plus jeunes, admettons, si on a un enfant, ça va faciliter la tâche déjà pour lui apprendre. Parce que après. Comme je vous dis, tout dépend du départ. Après, il y a des parents qui ont un caprène en même temps que leur enfant, qui sont en CE1, CE2, ils se rattrapent. Et moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Donc après, non, c'est que du bon et c'est que du positif, hein, de savoir lire et écrire.
C'est bon, elle a
décompté, pardon.
C'est l'ouverture sur le monde entier, quoi.
Oui.
Ça peut comme j'ai dit, la communication avec tout le monde, gérer ses dossiers personnels, ses factures, c'est d'être à l'abri d'avoir besoin à l'autre pour d'être pas gêné aussi. Mm-hmm. Ça engendre beaucoup de bénéfices. Hein.
Bien avoir accès au savoir sans être esclave de ce que les gens nous disent en choisissant soi-même.
Comment imaginez-vous l'écriture et la lecture à l'avenir? Par exemple, nouvelles technologies?
Je pense que l'écriture va devenir un peu plus phonétique. Mais elle s'est déjà transformée au cours des siècles. À un moment donné, elle s'est compliquée. À un moment donné, elle s'est simplifiée. Mais c'est normal que ça évolue.
Ah, ça, merci. Par contre, ça, c'est un tue-papier. Par contre, on est dans... En fait, oui, il y a moins de papier, mais en fait, on est plus dans la consommation, l'info. Et ça veut dire que maintenant, j'ai l'impression que les gens prennent moins de temps de lire. Ils prennent moins leur temps, vu que c'est... On télécharge quelque chose, on va sur la tablette, on zappe, il n'y a plus le plaisir du livre. Il n'y a plus ces choses-là. Et les enfants, il faut leur laisser les livres encore. Il ne faut pas leur donner tout de suite les tablettes. Il faut laisser le temps au temps. Mais je pense que petit à petit, moi, je trouve que c'est pas bien, quoi. Personnellement, je trouve que... Je sais pas, on perd le béaba, les choses simples, le toucher, le partage. Maintenant, c'est de l'info à la minute, tout. Maintenant, tout est consommé vite, quoi. Que ça soit ça ou autre chose, hein. Tout est consommé très vite. Maintenant, les gens, ils prennent plus le temps.
Je pense que, dû à l'outil, les gens ne seront pas plus intelligents, mais auront plus de facilité, pour chercher ce qu'ils cherchent. Hein. Ils ont plus besoin de savoir écrire, plus besoin de savoir compter. Intellectuellement, oui, je pense que si on avait l'outil après, ils seraient perdus, quoi.
La technologie,
c'est très important. C'est très important de savoir lire et écrire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et merci.
Je sais pas du tout.
Je comprends bien. Ça, j'imagine que ça peut être un gros sujet parce qu'avec les nouvelles technologies aujourd'hui, est-ce qu'il est absolument nécessaire de savoir lire? Je sais pas, mais certainement encore, j'espère. Et puis après, il y a tout le papier qui existe encore. Et je parlais juste avant des livres. La lecture, ça fait partie de notre culture. Et il faut continuer à garder ce côté-là.
Bah, déjà sur Internet, tous les journaux, tout ça, il y en a de plus en plus qui sont sur Internet. Après, je lis pas beaucoup, j'écris pas beaucoup.
Mais avec un téléphone, par exemple, on voit des textos.
Oui, c'est qu'on ça peut on écrit ça. Moins bien, par contre.
Oui.
Je pense que ça va de pire en pire parce qu'il y a Internet, avec Internet, les textos sont modifiés, avec je pense qu'on va revenir, on va régresser, quoi.
Ah oui.
Bah oui.
D'accord.
Déjà, tout est abrégé, tout est voilà.
Alors là, je sais pas du tout, là, je peux pas répondre à ça.
Ça se perd beaucoup avec l'informatique, du coup,
plus le langage texto, tout ça.
Ouais. Ça se perd beaucoup.
C'est l'orthographe qui va se perdre ou...
Ah, aussi, l'orthographe, oui, il y en a qui font beaucoup moins attention à l'orthographe, ils font beaucoup plus de fautes, ils écrivent en abrégé maintenant.
L'automne. Saison intermédiaire entre l'été et l'hiver. Les feuilles changent de couleur. Ils rougissent, puis ils jaunissent. Il fait moins chaud et je dois porter un bon haut. Beaucoup de consultations pour moins de prescriptions. Les journées s'annoncent avec de la brume et moi je le rhume.
L'automne, feuilles tombées, jardinier l'a ramassé. Journées rétrécissent, les yeux beaucoup se plissent. L'automne est couleur, rafraîchissement fait peur.
Pour la Minute du Pôle, j'ai trouvé un article sur le Courrier International. On m'a dit tout à l'heure que c'était encore un truc de gauchiste, mais en fait non, j'ai trouvé ça sur... c'est un journaliste qui s'appelle Juan Pedro Quiñonero. C'est un article de 2012 dans un journal qui s'appelle ABC Madrid, qui serait un journal monarchiste, donc pas forcément gauchiste du tout. L'article s'appelle « Les très bons comptes de l'immigration ». Les immigrés sont une excellente affaire pour l'État français. Ils rapportent une grosse douzaine de milliards d'euros par an et paient nos retraites. Les immigrés sont une très bonne affaire pour l'économie française. Ils reçoivent de l'État 47,9 milliards d'euros, mais ils reversent 60,3 milliards. Autant dire un solde positif de 12,4 milliards d'euros pour les finances publiques. qui ne représente pourtant que la part monétaire de transferts bien plus important. Dans ce pays de 64,7 millions d'habitants, 6,5 millions de Français comptent au moins un immigré dans leur famille. Les chiffres de l'immigration légale sont très fluctuants. En France, on recense environ 5,3 millions de résidents étrangers avec leur famille. Une équipe de chercheurs de l'Université de Lille, sous la direction du professeur Xavier Chojnicki, a réalisé pour le compte du ministère des Affaires sociales une étude sur les coûts de l'immigration pour l'économie nationale. Travaillant sur des chiffres officiels, les chercheurs ont décortiqué tous les grands postes de transfert des immigrés. Il en ressort un solde très positif. Les chercheurs ont remis leur rapport en 2009, au terme de 3 ans d'études. Les 47,9 milliards d'euros que coûte l'immigration au budget de l'État sont ventilés comme suit. Retraite, 16,3 milliards d'euros, aide au logement, 2,5 milliards, RMI, à l'époque, 1,7 milliard, allocation chômage, 5 milliards, allocation familiale, 6,7 milliards, prestations de santé, 11,5 milliards, éducation, environ 4,2 milliards.
Et de leur côté, les immigrés reversent au budget de l'État, par leur travail, des sommes beaucoup plus importantes. Par exemple, l'impôt sur le revenu, 3,4 milliards d'euros, impôt sur le patrimoine, 3,3 milliards, impôts et taxes à la consommation, 18,4 milliards, impôts locaux et autres, 2,6 milliards, contribution au remboursement de la dette sociale et contribution sociale généralisée, 6,2 milliards, cotisation sociale, environ 26,4 milliards d'euros. À ce solde positif de quelque 12,4 milliards d'euros, il faut ajouter d'autres revenus, pas toujours monétaires, mais d'une grande importance sociale et économique. Les immigrés occupent l'immense majorité des emplois, dont les Français ne veulent pas. Et 90% des autoroutes ont été et sont construites et entretenues par de la main-d'œuvre étrangère. Sans immigrés, les prix à la consommation, c'est-à-dire les produits agricoles et autres, seraient bien plus élevés, la main-d'œuvre étrangère étant bien moins payée. La comptabilité réalisée par les chercheurs de l'Université de Lille fait ressortir aussi de profonds changements sociaux. Majoritairement jeunes, les immigrés sont de grands consommateurs. Comme nous venons de le voir, ils versent environ 18,4 milliards d'euros à l'État sur leurs dépenses personnelles, notamment en TVA. Les immigrés ont modifié en profondeur le sport et les arts populaires français. La grande majorité des footballeurs de haut niveau sont issus de l'immigration et les artistes d'origine immigrée, noirs et maghrébins, peuplent le top 50 de la chanson populaire.
Parallèlement, de nombreux métiers, en particulier dans les services, ne fonctionnent en France que grâce à l'immigration. Plus de la moitié des médecins hospitaliers dans les banlieues sont étrangers ou d'origine étrangère. Pas moins de 42% des travailleurs des entreprises de nettoyage sont des immigrés. Plus de 60% des ateliers de mécanique automobile de Paris et de la région parisienne appartiennent à des mécaniciens et petits entrepreneurs d'origine étrangère. Dans un domaine aussi crucial que l'avenir du système des retraites, les immigrés jouent un rôle des plus favorables. Le très officiel comité d'orientation des retraites est parvenu à cette conclusion. L'entrée de 50 000 nouveaux immigrés par an permettrait de réduire de 0,5 point de PIB le déficit des retraites. Xavier Chojnicki commente ces résultats en ces termes. Il s'agit d'un processus historique lié à la structure de la population immigrée, majoritairement jeune. Comme ils sont peu qualifiés, les immigrés sont très souvent au chômage, mais ils dépensent aussi beaucoup et sont très entreprenants. Les pensions que nous versons aux retraités sont plus que compensées par la consommation et les cotisations sociales que paient les plus jeunes, parmi lesquels on trouve des gens très dynamiques. C'était donc un article de Juan Pedro Quiñonero.
En conclusion, nous espérons que cet air passé en notre compagnie vous aura fait découvrir les béabas de l'Alpha. Nous remercions encore Mme Eni, coordinatrice enfance, famille, et Mme Tillier, animatrice sociale de l'association Jeanne d'Arc, pour les réponses lettrées à nos interrogations. Nous remercions également toute l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en couleur et en mots, ainsi que l'équipe de Principes Actifs, JC Intrépide, Damien l'Interprète et Timothée l'Intraitable. Prochaine émission le jeudi 27 octobre, de 12h30 à 13h30. Toujours sur Principes Actifs. Si vous souhaitez nous réécouter, n'hésitez pas à rechercher nos podcasts sur principesactifs.net. Il est à présent 13h30. En conséquence, nous n'avons pas d'autre choix que de rendre l'antenne. Et oui, on ne fait pas ce qu'on veut. À bientôt.